Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Katrina, la Nouvelle-Orléans, août 2005.
Katrina a révélé de sérieux problèmes dans nos capacités de réponse à tous les niveaux du gouvernement. Et dans la mesure où le gouvernement fédéral n'a pas pleinement fait son travail, j'en assume la responsabilité.
C'était le président Bush, 15 jours après l'ouragan et l'inondation qui a fait sauter les digues de protection de la Nouvelle-Orléans. Dans les images terribles qui étaient parvenues de la ville submergée, la puissante Amérique avait du mal à se reconnaître. Au bout d'une semaine terrible, on dénombrera 1836 morts et 705 disparus. Dans la catastrophe, on pourrait dire la même chose de la guerre, la première des victimes, c'est la vérité. Des rumeurs venues du fond des âges ont surgi de la Nouvelle-Orléans submergée. Il était raconté par exemple que les riches avaient coupé les digues afin de submerger les noirs. Le monde extérieur n'était pas en reste. Les télé-évangélistes parlaient de punition divine. N'avez-vous pas remarqué, demandait-il sur les écrans satellitaires, que Katrina avait la forme d'un fœtus de 6 semaines, avorté bien sûr. De ce moment, panique sont nées de suite des questions politiques. Les communicants y répondent à leur façon immédiate. En cas de catastrophe, recommandent-ils, il faut que les responsables politiques se rendent visibles de suite. Roosevelt ou Clinton savaient le faire, Bush n'a pas su le faire. Ceci dit, il faut peut-être faire appel à un temps plus long et se demander par exemple comment, dans une même ville, des événements comparables 1927-1965 avaient été gérés de façon si diverse par les administrations successives. Les destructions de Katrina sont aussi caractéristiques du type d'État qu'on veut construire.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Retour de la Nouvelle-Orléans, tout bronzé.
Exactement.
Vous avez publié dans le numéro qui paraît aujourd'hui d'Alternative économique un article, Katrina, un ouragan qui ne passe pas. Et il y a quelques années, dans votre maison, l'école des hautes études en sciences sociales, vous avez publié Katrina 2005, l'ouragan. C'est pas facile d'enquêter sur Katrina parce que dans le contexte sécuritaire où se trouvent les États-Unis et pas seulement les États-Unis, l'accès aux archives de l'administration n'est pas si facile, mais il y a beaucoup de sites qui recensent des récits.
Tout à fait, ça a été un vrai défi pour moi en tant qu'historien, puisque les archives ont par définition disparu à cause de l'ouragan et l'inondation. Donc j'ai eu recours à des entretiens qui ont été faits par des historiens locaux qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé.
Il y a des sites internet aussi qui ont fait la collecte des récits, des témoins, des acteurs, des victimes.
Exactement, les témoignages ensuite ont été déposés sur les sites, et c'est une source intéressante, même si elle doit être maniée avec précaution.
Puisque vous rentrez de la Nouvelle-Orléans, vous n'aurez pas de difficulté à nous faire un petit portrait de la ville, avec son lac Pontchartrain au nord, le golfe du Mexique à l'est, le Mississippi qui la traverse, mais d'un point de vue sociologique, démographique.
Alors, c'est une ville tout à fait étonnante. Hein. Ça, à l'origine, à l'époque moderne, c'est une ville atlantique, au croisement de l'Europe, des Caraïbes et des États-Unis. Elle en a tiré une population très diverse, hein, où les Noirs sont extrêmement présents, mais également
deux tiers de la population,
mais également un brassage ethnique, culturel, tout à fait exceptionnel. Hein. En France, on connaît très bien la musique, mais il y a une littérature, une nourriture qui fait de la ville quelque chose d'exceptionnel. Et les habitants eux-mêmes sont très fiers de leur diversité, de leur différence par rapport au reste du pays.
Le maire de l'époque est noir. On va dire entre parenthèses qu'il est aujourd'hui en prison pour corruption. Il incarne le noir post-racial, dites-vous.
Oui, en tout cas, il pense l'incarner, il croit l'incarner. C'est-à-dire une société qui a effacé toutes les différences de couleur et qui doit développer économiquement la ville. Hein, et lorsqu'il arrive à la tête de la mairie, il est persuadé que l'avenir sera radieux et qu'il faut simplement développer le tourisme dans la ville et moderniser cette ville.
Alors que la ville a déjà des aspects de Sodome pour ceux qui cultivent sa mauvaise réputation.
Oui, tout à fait. La ville est connue pour ses fêtes, pour les beuveries des touristes en mal de sensation. Donc dans le reste du pays, beaucoup de gens ne veulent pas envoyer leurs enfants à Nouvelle-Orléans et ne veulent pas y aller non plus.
En même temps, c'est une ville qui a l'habitude des catastrophes avec deux grands points de repère dans la mémoire, dites-vous. 1927... Grande crue, qui concerne d'ailleurs bien plus que la ville, et 1965, Betsy, l'ouragan.
Oui, tout à fait. Les, De manière générale, la fin du mois d'août, début septembre, c'est ce que les Américains appellent hurricane season, la saison des ouragans. Donc, ils sont prêts, à Nouvelle-Orléans, mais dans le reste du sud des États-Unis, ils sont prêts aux ouragans, ils se préparent aux ouragans. Et dans cette ville, il y a un long héritage, hein, en matière d'ouragans, de prévention des ouragans. Et les habitants ont montré qu'ils étaient capables de faire face.
Mais on va parler du rapport de l'État avec la sécurité environnementale, comme on dit aujourd'hui, en 1927, après la Grande Crue. C'est l'occasion pour un futur président des États-Unis de montrer ses capacités.
Oui, 1927, c'est Herbert Hoover, hein, qui est alors ministre du Commerce, et qui va avoir une idée très simple. Il pense que l'État doit coordonner les secours, et donc il met en place des dispositifs d'aide, hein, en demandant à la fois des associations comme la Croix-Rouge, mais également aux autorités locales de la ville,
de
coordonner les secours. Voilà. Il coordonne, l'État coordonne les secours et il va en tirer une notoriété très importante qui vont lui permettre d'être élu l'année suivante.
C'est ce que vous appelez l'État associatif. Et en 1965, après l'ouragan Betsy, le président Johnson est là dès le lendemain. Au nom de quoi ? L'État-providence ?
L'État-providence, il pense qu'il veut faire de la reconstruction de la ville une vitrine de son projet de grande société dont nous avons parlé il y a quelques mois ici. Et donc il se rend très rapidement et il montre que l'État est actif, que le président est présent et qu'il peut prendre en charge les victimes de la catastrophe, comme les plus pauvres dans le pays.
Mettons aussi un autre nom dans notre mémoire, FEMA. C'est un produit d'ailleurs d'une administration démocrate. Qu'est-ce que c'est la FEMA ?
La FEMA, c'est l'agence qui, depuis 1979, hein, est en charge de la gestion des catastrophes dites naturelles dans le pays et qui coordonne les secours en cas d'ouragan, d'inondation, de tremblement de terre.
Assez connu. 28 août, les réseaux d'observation météorologique et scientifique ont bien fonctionné.
Absolument. Ouais.
Les autorités, il y a le maire, il y a aussi la gouverneure, Blanco, affichent surtout le maire, le plus grand calme, et il n'y a pas de plan d'évacuation obligatoire qui soit imposé.
Tout à fait, c'est ce qui est extrêmement surprenant, il n'y a pas de plan d'évacuation de la ville obligatoire. Et donc, ce qui se produit, c'est que les classes moyennes, les gens qui ont des voitures et qui peuvent partir, quittent la ville, et les plus pauvres, les plus vulnérables vont rester dans la ville.
Il y a un quart des habitants de la Nouvelle-Orléans qui n'ont pas de véhicule.
Oui, d'après les chiffres dont on dispose. Oui.
Alors voici ici le témoignage, le premier de ceux qu'on va entendre, recueilli par Charlotte Garçon sur les docks France Culture de Malik Rahim, un leader noir. Nous sommes maintenant au moment où l'ouragan s'est déclenché, a atteint du moins la Nouvelle-Orléans, le 29 août, l'électricité est coupée, la panique commence.
We realized that the city had no real plan.
On s'est rendu compte que la ville n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire.
That the city had given a mandatory evacuation.
La ville avait ordonné une évacuation obligatoire.
But it only applied to the 300,000 people who had means of leaving.
Mais ça s'adressait aux 300 000 personnes qui pouvaient évacuer parce qu'ils avaient un véhicule, par exemple.
But the city also knew that it was about 160 to 180,000 people who had no means of escaping.
Et la ville savait très bien qu'il y avait entre 160 et 180 000 personnes qui n'avaient aucun moyen de quitter la ville.
And the city wasn't providing no services for them.
Et la ville n'avait rien prévu pour eux.
I equated it to a house being on fire. Everybody but the quadriplegic or paraplegic was just left.
C'est comme si une maison prenait feu et que les paraplégiques restaient dedans et ne pouvaient rien faire, ne pouvaient pas partir.
And then Jefferson Parish not allowing blacks into their parish, so we was quarantined here.
La paroisse de Jefferson n'autorisait pas les noirs à venir chez eux, donc on était comme en quarantaine ici.
Alors, on touche du doigt le caractère aléatoire que vous soulignez des témoignages d'évacuation obligatoire, mais dont Malik Rahim dit qu'elle n'est pas obligatoire. En fait, 160 000 personnes qui n'ont pas les moyens de partir, les chiffres établis depuis sont moindres, 110 000. Les gens des hôpitaux, par exemple, est-ce qu'on pouvait les faire partir ?
Non, parce qu'il n'y a pas de moyens. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois que la ville est inondée, on ne peut plus sortir de la ville. Donc, les gens se retrouvent coincés. Et il n'y a, quand je parle d'absence de plan d'évacuation, c'est un plan qui aurait prévu des dispositifs de bus, par exemple, qui auraient pu évacuer les populations les plus vulnérables, etc.
Mais les bus sont absents ou submergés.
Donc il n'y a pas de possibilité de partir. Donc le drame qui se joue là, c'est que les populations les plus vulnérables, les plus fragiles, se retrouvent du jour au lendemain, coincé dans une ville inondée.
Souvent, on retrouve dans votre livre la question du sort des prisonniers. Le maire ancien de la Nouvelle-Orléans est actuellement en prison. Il y a 1780 prisonniers pour 100 000 habitants, c'est le taux le plus élevé des États-Unis. Et les prisonniers, on ne peut pas les faire partir.
Absolument, et c'est un drame inouï qui va se jouer, puisque les prisonniers vont être placés en haut de la prison. Hein. Ils vont attendre sans avoir aucune information de ce qui est en train de se jouer. Et ça va créer des tensions très très fortes dans la ville hein, et entre les prisonniers et les gardiens de prison.
Alors les tensions, on va les retrouver sur les lieux de regroupement qui sont proposés ou imposés à ceux qui restent. Les autoroutes en hauteur. Mmh, alors là, il y a des campements, des tentes.
Il y a des campements improvisés, ouais. Tout à fait.
Le stade,
qui s'appelle Superdome. Tout à fait.
Et puis Convention Center.
Exactement, qui va être pas encadré. C'est un lieu d'improvisation aussi, où les gens, notamment les plus vulnérables, beaucoup de drogués, de marginaux, vont aller dans le Convention Center.
Alors tout de suite, des rumeurs. Est-ce que ce sont des rumeurs? Sont les actes de violence dans les centres de regroupement?
Il y a toujours des rumeurs. En cas de dragon, les rumeurs, on les trouve dans tous les pays, mais là, elles vont être extrêmement rapides et elles vont décrire des situations anarchiques, extrêmement violentes. On
alors
parle
on
de cannibalisme, de cannibalisme, viol
sur les enfants.
Sur les enfants, tout à fait, dans le Superdome, de gens qui se comportent de manière bestiale. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que les autorités, notamment le shérif de la ville, hein, véhiculent lui-même ces rumeurs auprès des médias américains qui vont les diffuser dans tout le pays. Hein, et donc, on a l'impression que la ville est livrée à des forces démoniaques, hein, et quelque chose de très violent se joue. Les témoignages que les historiens ont pu recouper par la suite hein, montrent bien qu'il s'agit le plus souvent de rumeurs tout à fait fantaisistes et qu'il n'y a pas eu ces scènes d'hyper-violence qu'elles décrivent.
Et les pillages, Michel Scott, TF1, le 31 août.
Dans ce chaos, les scènes de pillage se multiplient. Les vitrines des magasins sont prises d'assaut et la police n'y peut pas grand-chose. Pataugeant au milieu des détritus, certains, faute de mieux, essaient de calmer les esprits.
On fait de notre mieux avec les moyens qu'on a.
En fait de pillage, il s'agit dans l'esprit de beaucoup de survivre, tout simplement.
On n'a pas le temps de discuter, les gens sont coincés ici sans rien, on n'a pas d'eau ni de médicaments. Moi, il me faut de l'insuline, par exemple, là, tout de suite.
Ainsi, dans ce supermarché, ce sont les agents eux-mêmes qui encouragent les habitants à venir se servir. Mieux, ils remplissent leur propre caddie.
La police m'a dit que je pouvais venir pour prendre des choses. Je n'ai rien, pas de vêtements, pas de quoi manger.
Qu'est-ce qui est pillage? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous signalez, Romain Huret, dans votre livre, le cas de cette photo qui est reproduite, alors qu'elle est toujours la même, avec des légendes différentes. Une fois, un homme sauvant un peu de nourriture dans son sac poubelle. Une autre fois, un homme s'échappe avec le produit de son pillage.
Absolument, et ce que vous oubliez de dire de ces photos de l'AFP qui vont être diffusées par l'AFP, dans un cas il y a un blanc et dans l'autre cas il y a un noir, donc les noirs pillent pendant que les blancs ont faim et donc ont légitimement le droit d'aller se servir dans les magasins.
Mais on sent quelle est votre tendance d'interprétation, Romain Huret, mais vous êtes bien obligé d'admettre, vous le dites sur plusieurs pages dans votre livre Katrina 2005, les pauvres ont souvent été les premiers à tenir un langage raciste.
Oui, tout à fait. Ils ont l'impression que la catastrophe a été déclenchée par les blancs eux-mêmes, hein, par les élites blanches, hein, pour nettoyer la ville, hein, pour transformer la ville en Disneyland. Hein. Et la rumeur selon laquelle les digues ont été volontairement détruites par les élites, elle apparaît très très vite. Une autre rumeur dit qu'on les a totalement abandonnés. Enfin, on voit bien, mais c'est extrêmement classique dans ces moments de tension, de panique, d'isolement, parce qu'il faut bien voir que la ville est isolée du reste du monde. Ce type d'interprétation irrationnelle apparaissent systématiquement.
Les pauvres sont parfois assez éloignés du langage progressiste, ajoutez-vous.
Oui, tout à fait. Eux, ils ont des propos extrêmement durs sur les autorités et sur les habitants de la ville.
Alors, en ces jours qui sont particulièrement dramatiques, le 30 août et le 31 août, on imagine peut-être un nombre absolument considérable de morts dont on se demande comment on organisera l'enterrement.
Si t'étais venu sur Basin Street il y a 15 ans, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça c'était des clubs de jazz partout autour. Il n'y en reste que deux. Louis Armstrong avait l'habitude de jouer dans ce bâtiment, juste là.
Les Barnes de la Nouvelle-Orléans avaient l'habitude de briquer leur cuivre et vendre, tendre au mieux les peaux de leurs tambours, dépousseter leurs habits de parade pour les enterrements.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La Nouvelle-Orléans, 2005, je lis dans le dossier de Courrier International sur la reconstruction de la ville que la tendance en matière d'enterrement en 2015, c'est d'exposer des cadavres embaumés dans des poses étudiées, genre les attitudes qu'on avait quand on pratiquait la cuisine ou bien la boxe. Mais ça, c'est 2015. Vous revenez d'ailleurs de la Nouvelle-Orléans 2015, vous nous en parlerez tout à l'heure, Romain Huret. Dans Alternative économique, cette fois, vous publiez L'ouragan qui ne passe pas, Katrina, en 2005. L'évacuation ne commence vraiment qu'à partir du jeudi 1er septembre et surtout du vendredi 2 septembre et d'abord dans le plus grand désordre, la police municipale étant débordée, les téléphones sonnant de partout et il n'est pas possible dans les premiers moments de hiérarchiser les interventions qui seraient prioritaires et celles qui ne le seraient pas.
Tout à fait, c'est un phénomène une fois de plus très classique en cas de catastrophe. Hein. Les autorités locales sont submergées d'appels, de gens paniqués, ne savent plus où intervenir, comment intervenir, et donc attendent. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant 2-3 jours, on attend une intervention du gouvernement fédéral pour venir en aide à ces populations et à ces forces de secours qui sont débordées.
Alors, il y a la marine, les gardes-côtes, il y a les soldats de la garde nationale qui vont intervenir. C'est quoi les soldats de la garde nationale?
Chaque État aux États-Unis a une garde nationale. Il y a une garde nationale de Louisiane, du Kentucky, du Massachusetts.
Celle-ci est donc sous l'autorité de la gouverneure.
Tout à fait.
Et puis, il va y avoir des Marines. Il paraît qu'ils vont être accueillis, dit un de vos témoins, qui a dû faire la guerre de 40, comme les soldats américains au moment de la libération de la France.
C'est un général qui dit ça. Ouais. Les habitants vont avoir une autre interprétation, un autre regard sur l'arrivée des soldats de l'armée américaine dans la ville.
On va en parler, mais les habitants, de suite, ils s'impatientent de l'invisibilité pendant les premiers jours des autorités locales et aussi fédérales.
Les fédérales, ils ont l'impression d'avoir été abandonnés. Hein. Les tensions dans le Superdome naissent de ce sentiment d'abandon. Les nuits sont longues. Beaucoup de gens manquent de médicaments, de nourriture.
Mais le maire est là, dans le Superdome.
Le maire est présent, mais le maire ne peut rien faire. Il est débordé lui-même, il ne peut pas venir en aide, il ne peut pas apporter des médicaments, du réconfort. Et les gens ont le sentiment que la situation s'éternise et que la ville est abandonnée à cause de sa mauvaise réputation, à cause de la forte population noire dans la ville. Et donc, George Bush ne s'intéresse pas, le président Bush ne s'intéresse pas à la ville.
Alors, il s'intéresse pas à la ville, c'est-à-dire qu'il va mettre un certain temps avant de réagir. On lui communique des dossiers, des images.
Je pense que au départ, ils ne prennent pas conscience de la catastrophe qui est en train de se jouer. Ils savent que l'ouragan va être très fort, mais ils ne réalisent pas que l'inondation va être aussi rapide et qu'il faut donc intervenir très rapidement. Et ils vont tarder à le faire.
Alors qu'un bon gouvernant, souvenez-vous de Schröder, chancelier allemand en Allemagne au moment des inondations, il est super présent. C'est comme ça d'ailleurs qu'il gagne des élections législatives qui, a priori, ne devaient pas lui être favorables. Bush n'arrive pour sa première visite à la Nouvelle-Orléans que le 2 septembre. On va entendre que ça se passe mal avec le maire. Ça se passe mal aussi, vous nous le direz, avec la gouverneure.
Les nerfs qui lâchent alors que les cadavres gisent en pleine rue et ces réfugiés qui s'entassent dans un dénuement total. La toute-puissante Amérique doit aujourd'hui regarder ces images avec consternation et incompréhension.
On va bientôt s'entre-dévorer.
Mais nous sommes américains, c'est terrible.
Devant la lenteur de la réaction gouvernementale, le maire de la Nouvelle-Orléans s'emporte.
Alors maintenant, bougez vos culs et faites quelque chose pour enrayer cette foutue plus grande crise de l'histoire de ce pays.
Malgré la situation, Condoleezza Rice n'est rentrée de vacances qu'hier. Et en visite en Louisiane, George Bush s'est fait tancer par les journalistes.
N'aurait-il pas fallu plus d'argent et de troupes ici plutôt qu'en Irak ?
Je ne suis pas du tout d'accord. Notre boulot est de défendre ce pays dans la guerre contre le terrorisme. Et notre boulot est aussi d'amener de l'aide ici. On fera les deux.
Alors voilà que le débat politique tel que vous le posez l'est déjà dans cette intervention de Bush. Mais dites-nous un mot d'abord du heurt entre la gouverneure et George Bush. Alors George Bush, il arrive peut-être tard, mais il dit c'est à moi, de gouverneur, président fédéral, de m'occuper de tout.
Tout à fait, mais la gouverneure de Louisiane doit demander l'autorité, doit accepter la venue de troupes fédérales dans la Louisiane. Et elle refuse de le faire parce qu'elle a peur que l'armée des États-Unis tire sur les habitants de la ville. Elle craint une hyper militarisation de l'intervention, hein, extrêmement violente. Et donc, elle demande des garanties au président Bush. Et ça donne cette scène tout à fait surréaliste, hein, où le président et la gouverneure s'engueulent, hein, autour de cette question-là, alors que des gens attendent de l'aide, de la nourriture, de l'eau, des médicaments.
Il n'est pas sûr d'ailleurs que la gouverneure et le maire s'entendent parfaitement non plus. Alors, vous parlez de militarisation. La FEMA, souvenez-vous, 1979, c'est une organisation qui est chargée de prévoir et de gérer les crises de sécurité environnementale, les catastrophes naturelles. Mais la FEMA, nous expliquez-vous, elle est peu à peu entrée, sous Reagan, plus encore sous Bush, dans l'orbite militaire, sécuritaire.
Absolument, oui. Et surtout c'est-à-dire après le 11 septembre 2001, la FEMA était une agence indépendante, donc qui pouvait prendre en charge sa destinée et son budget. Après le 11 septembre 2001, elle a été réintégrée dans le Department of Homeland Security, le département de la sécurité intérieure. Et la règle désormais veut que, avant d'intervenir, la FEMA doit attendre que l'armée a sécurisé la zone. Et donc, elle ne peut pas intervenir immédiatement, elle doit attendre un délai. Et c'est ce délai, hein, qui va être terrible, hein, puisque l'armée n'intervenant pas tout de suite, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la FEMA ne peut pas intervenir. Et donc les agents de la FEMA, les bus de la FEMA, l'eau de la FEMA attend un bâton rouge en Louisiane à quelques kilomètres de la Nouvelle-Orléans, mais n'interviendront pas avant plusieurs jours.
Au fond, il y a deux cultures qui s'opposent en principe. La culture, j'allais dire humanitaire, environnementale, partage, l'information circule, les associations travaillent coordonnées. Puis il y a la culture militaire qui est davantage fondée sur le secret. La lutte contre le terrorisme, qui est très intense depuis le 11 septembre, implique le secret.
Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que les habitants de la ville, les habitants des États-Unis, n'avaient pas compris que la mission de la FEMA avait été changée au cours de la présidence de Bush, alors que le président Clinton, hein, avait développé, amélioré le fonctionnement de la FEMA, qui dans les années 90 fonctionne plutôt bien, intervient, prévient les catastrophes et a plutôt bonne réputation dans le pays. Et donc il va y avoir un décalage entre ce que les habitants attendent et la réalité de l'intervention. Et c'est ce qui crée un scandale dans tout le pays.
Donc c'est difficile de tenir cette position contradictoire de Bush. On lutte à la fois contre le terrorisme et pour la sécurité des personnes en cas de catastrophe naturelle. Vous parlez de Clinton. Clinton, en tant qu'ancien président, se rend avec l'ancien président Bush, le père du président de 2005, et de la femme Barbara Bush, de George Bush. J'espère que tout le monde m'a suivi, mais on va comprendre la complexité de la situation en entendant un autre leader noir, Al Sharpton.
Pour moi, la manifestation la plus criante d'indifférence, c'est quand Barbara Bush, l'ancienne première dame du pays, la mère du président actuel, faisait une visite à l'Astrodome de Houston en compagnie de son mari, l'ex-président Bush, et de l'ancien président Clinton. Et avec une indifférence désarmante, à moins que ce soit du cynisme, la voilà qui dit « Ces gens vivent dans de meilleures conditions que chez eux. Certains ont gagné au change, ils s'en tirent bien. »
The hospitality, and so many of the people in the arenas here, you know, we're underprivileged anyway. this is working very well for them.
Et Clinton ne relève même pas. Bush non plus. On a eu des leaders noirs dénoncés par le Sénat pour moins que ça. Cette bonne femme nous dit que c'est une chance de promotion sociale.
C'est pas l'État compassionnel. Je croyais d'ailleurs que le président Bush Jr. parlait d'État compassionnel.
Oui, mais visiblement pas pour tous les habitants des États-Unis.
Alors vous vous dites, il développe un État contractuel dont on voit les contradiction dans cette affaire de Katrina. État contractuel, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un État qui privatise les missions de services publics. On connaît aussi en France ce type de transformation. Hein. Mais le cas de la FEMA est tout à fait intéressant puisque pendant très longtemps, la FEMA avait pu développer ses propres modes d'intervention, avait pu avoir son propre budget. Mais l'administration Bush, non seulement elle intègre au Department of Homeland Security, mais également elle pousse l'agence à privatiser ses missions, privatiser ses fonctions en ayant recours à des intervenants extérieurs. Et ça va encore plus compliquer l'intervention et ça va la retarder davantage, ce qui explique l'isolement de la population et l'agacement d'Al Sharpton, par exemple.
J'en viens à la conclusion de votre article dans l'Alternative économique de votre livre précédent. Être pauvre, ce serait aussi ne pas être citoyen, se sont demandés beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Orléans. Et ça a eu de l'influence, dites-vous, sur les élections. Plus d'influence sur la présidentielle qui a suivi, peut-être, que certaines grandes affaires internationales.
Bien sûr, je pense que Katrina, maintenant, est devenue un prénom qui renvoie à une mauvaise gestion, à un désastre humain. Et le sénateur Barack Obama va parfaitement utiliser le désastre causé par Katrina en essayant de remettre au devant de la scène la question de l'engagement citoyen, de l'attention aux autres. Et son discours sur le public va être particulièrement prégnant à cause de l'échec de Katrina, qui a montré les risques de cette privatisation à l'extrême et de cette militarisation à tout va.
Donc ceux qui voulaient, qui avaient été rendus invisibles plutôt, ils ont fait nombre.
Oui, oui, ils sont... Exactement.
Merci à vous, Romain Huret. Je recommande donc votre article dans Alternative Internationale et puis dans Courrier International, autre publication, un dossier sur la reconstruction de la Nouvelle-Orléans. 10 ans après, l'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Dimitri Gronoff, l'équipe de la Marche de l'Histoire, Elisabeth Jacquinot, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin. Et Franck Olivard, Mathieu Vidard,
oui,
quel est votre
Jean Lebrun,
programme
Jean Lebrun.
Toujours très vaste.
Oui, on va partir dans le monde entier grâce à des linguistes de terrain pour parler de la disparition des langues, Jean.
Merci. Dans quelques instants, donc la tête au carré.